France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, il fallait une sacrée mémoire pour se souvenir des mille aventures des dieux et des déesses. Dieu de l'Olympe, de sous la terre, de la mer, Dieu de partout, et encore plus pour se souvenir de ces foules de héros et d'héroïnes qui pullulaient dans le monde. C'était mille récits possibles, mille combinatoires, comme dans un immense jeu de cartes. En plus, chaque ville, chaque village, et les familles même, enfin pas toutes, seulement les nobles, avaient leur manière de raconter ces histoires de grands ancêtres. C'était un embrouillamini qui n'en finissait pas de varier. Ici, je ne peux en montrer que l'écume. Et en plus, ces dieux, ces grandes figures héroïques, personne ne les avait vus ou ne pouvait les voir. Les raconter, en parler avec précision, était une tâche surhumaine.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Les dieux étaient devenus invisibles. Quand ils visitaient les humains, ils n'avaient pas la politesse de se présenter directement. Cela n'arrivait qu'en de très rares occasions. On s'en étonnait et on s'en souvenait longtemps. Une de ces rencontres extraordinaires entre Dieu et humain est devenue très célèbre, on en parle encore. Un soir, les fils de Zeus, les Dioscures, les fameux Castor et Pollux, sont venus frapper à la porte d'un fêtard qui avait plein d'invités chez lui. Ils ont demandé à voir l'un des convives, le poète Simonide, qu'ils aimaient bien. Simonide est allé les rejoindre dehors et la maison du fêtard s'est effondrée. Les Dioscures, en fait, vengeaient le poète. Le fêtard était un athlète qui avait demandé à ce poète, Simonide, de célébrer par ses vers une de ses victoires sportives. Simonide se met à composer un poème pour ce champion, mais il n'arrivait décidément pas à être inspiré. La vie du sportif n'était pas très intéressante. Simonide ne lui a alors consacré qu'un tiers de son poème. Les deux autres tiers célébraient les fils de Zeus, les très glorieux et magnifiques Dioscures, leur beauté, leur naissance divine, leurs exploits. L'athlète dépité décide alors de ne payer que le tiers de la somme promise. Jean de La Fontaine a raconté cette histoire ancienne. Il en a fait l'une de ses fables, où il reprend un auteur grec.
Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète. Et la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus, son père un bon bourgeois, lui sans autre mérite, matière infertile et petite. Le poète d'abord parla de son héros. Après en avoir dit ce qu'il en pouvait dire, il se jette à côté, se met sur le propos de Castor et Pollux. Enfin, l'éloge de ces dieux faisait les deux tiers de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'en payer un talent. Mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers et dit fort franchement que Castor et Pollux acquittassent le reste.
Faites-vous contenter par ce couple céleste. Je veux vous traiter cependant. Venez souper chez moi, nous ferons bonne vie.
Simonide, sans doute parce qu'il avait peur de perdre le dernier tiers de son salaire, accepte l'invitation. Les deux fils de Zeus, les Dioscures, viennent frapper à la porte de l'athlète et avertissent Simonide qu'il doit quitter la maison au plus vite. Et de fait,
un pilier manque et le plafond, ne trouvant plus rien qu'il était, tombe sur le festin, brise plats et flacons, n'en fait pas moins aux échansons. Ce ne fut pas le pis, car pour rendre complète la vengeance due au poète, une poutre cassa les jambes à l'athlète et renvoya les conviés, pour la plupart estropillés.
On crie au miracle. On découvre que le poète Simonide était protégé des dieux. On décide alors de doubler son salaire. Ce genre d'intervention directe des dieux était extrêmement rare. Le plus souvent, il fallait se contenter de signes obscurs, difficiles à interpréter. Quant aux héros et aux héroïnes, ils étaient morts, enterrés ou incinérés depuis longtemps, depuis qu'avait fini l'âge des héros dont nous avons parlé la semaine dernière. Cet âge des héros où les dieux côtoyaient les humains, se montraient, discutaient, festoyaient avec eux et souvent leur faisaient des enfants, est définitivement clos. Il s'est achevé avec la fin de la guerre de Troie et le retour catastrophique des Grecs. Ce retour fut désastreux. Il a vu périr la plupart des Grecs en mer ou tués à peine rentrés chez eux. L'époque des demi-dieux et demi-déesses, comme Achille, Hélène, est finie pour toujours. On n'y reviendra pas. Certains héros vivent encore, ils sont immortalisés et passent de jolis jours dans un lieu heureux et lumineux, les îles des Bienheureux, très loin, au-delà de l'océan. Mais ils sont coupés du monde, confinés, et ne servent plus à rien. Ces héros absents ne vivent en fait que dans leurs légendes, dans les cultes qu'on leur adresse, dans les poèmes et leurs images. Et pourtant, des milliers d'histoires couraient sur ces héros et ces dieux lointains. Le poète Simonide n'avait jamais rencontré les Dioscures avant cette soirée. Et pourtant, sa poésie a su parler d'eux de la bonne manière, puisqu'elle a plu aux deux fils de Zeus et qu'ils sont venus venger le poète. Comment était-ce possible? Comment Simonide a-t-il pu avoir une connaissance aussi précise de ces dieux au point d'en remplir les deux tiers de son poème, alors que l'athlète, bien vivant, tout proche et accessible, ne l'inspirait pas? Les poètes étaient privilégiés. Ils avaient un moyen d'accéder à ces dieux invisibles, à ces héros du temps passé, de connaître leur visage, la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux, leurs histoires, leurs sentiments. Ce moyen n'appartenait qu'à eux, ils en avaient le monopole. Ce moyen, c'était 9 déesses, 9 sœurs, les 9 muses. Elles donnaient aux poètes accès à ces mondes lointains et hors d'atteinte pour les mortels normaux. Un poète devait demander leur aide s'il voulait dire quelque chose de sensé, de crédible sur ces histoires anciennes. Il devait trouver les mots pour les convaincre de l'aider. C'était tout un métier. Grâce à ces déesses, s'il répondait à sa demande, il avait de l'autorité. Sinon, ses paroles étaient du vent, du bruit, rien de plus. Les 2 grands poèmes qui, pendant des siècles, ont été à la base de la culture de tous les Grecs, l'Iliade et l'Odyssée, commencent par un appel aux muses. Si Homère peut se lancer dans ses immenses épopées sur Achille puis sur Ulysse, c'est qu'une muse vient à son secours tout au long de son chant. En fait, c'est la muse qui va chanter le poème, pas le poète humain et mortel qu'est Homère. Le poète ne sera qu'un intermédiaire, un serviteur des muses.
François Hartog, historien.
On ne peut pas dire, je crois, que l'Odyssée est une biographie d'Ulysse, pas plus que l'Iliade serait une biographie d'Achille. Il me semble que, si je reviens à cet exemple, à cet élément de la première personne, dans l'Odyssée précisément, il n'y a pas de première personne. Ce n'est pas un jeu qui parle, même pour parler d'un autre, c'est un aède, c'est-à-dire un poète, qui parle étant inspiré par une muse. Donc le poète, et ce n'est que le porte-parole de la muse. Autrement dit, cette question de la biographie n'est pas séparable de ce que l'on peut dire sur le surgissement de l'individu.
Ainsi, pour son poème « L'Iliade », Homère a choisi comme thème la colère d'Achille, qui a fait tant de mal aux Grecs pendant la guerre de Troie. Mais c'est la muse qui doit chanter cette histoire extraordinaire. Homère lui donne le thème, lui indique ce qu'il veut savoir, comprendre, puis il lui laisse la parole. Et elle, si elle veut, si elle accepte ce contrat, elle fera le poème.
La colère d'Achille, fils de Pélée, déesse, chante-la.
La déesse et la muse. Même chose pour l'Odyssée, l'épopée d'Ulysse, le héros virevoltant, l'homme aux 1000 tours. C'est la muse qui est invitée à en parler, à en faire l'épopée.
L'homme tournoyant, dis-le-moi, muse, ces tours et 1000 détours de vagabond, après qu'il eut ravagé la sainte cité de Troie, commence où tu veux, déesse, fille de Zeus, et parle à nous aussi.
Homère, tout seul, sans la muse, n'y serait pas arrivé. Il connaît bien la légende, évidemment. Comme pour tous les Grecs, le personnage d'Ulysse, l'homme rusé, à l'intelligence nombreuse, le futé qui s'en sort toujours, qui a souffert 1000 douleurs sur la mer, lui est très familier. Homère a déjà écouté 1000 poèmes de ses collègues et prédécesseurs qui racontent la victoire d'Ulysse à Troie, ses longues années d'errance, sa lutte contre les prétendants dans son île d'Ithaque. Il sait qu'Ulysse est rentré tout seul chez lui, que ses compagnons n'ont pas survécu. Il sait qu'Ulysse en a bavé pour retrouver sa femme et son fils, pour récupérer son palais. Mais cela ne suffit pas. Ça, C'est la tradition, ce qu'on dit, ce qu'on colporte. Ça ne suffit pas pour faire un nouveau poème. La tradition, dit Homère dans l'Iliade, ce n'est que du bruit, de la rumeur. Elle peut être prestigieuse, célèbre, très connue et répétée partout. Mais elle ne permet pas de composer un poème, car elle n'est pas sûre, elle n'est pas fiable. Pour dire des choses certaines, précises et vraies, il faut être un témoin direct. Pour un grec, la connaissance directe des choses était la condition de la vérité. Il fallait avoir vu en personne ce dont on parle. Sinon, on n'était pas crédible, on restait dans le vague, dans des clichés ou des inventions sans fondement. Au pire, il fallait s'appuyer sur de vrais témoins qui ont assisté à ces événements, avec Ulysse et Achille. Ces héros disparus depuis longtemps, ça paraît impossible, évidemment. Il n'y a plus aucun témoin direct de leurs aventures, sauf pour les poètes. Eux, et seulement eux, ont accès à des témoins fiables. Ces témoins, ce sont les muses. Elles étaient là, à Troie, chez Circé, à Ithaque, à côté des héros et dans l'Olympe, à côté des dieux. Et immortelles, elles sont encore là, éternellement présentes, à côté du poète qui chante. Si le poète trouve les mots pour les persuader de descendre de l'Olympe et de l'aider. Les muses savent tout et peuvent tout dire si elles le veulent. Les humains, non.
Les poètes antiques, Homère en particulier, et d'autres aussi, Hésiode, se réfèrent aux muses. Ils invoquent la muse au début de leurs poèmes pour qu'elle les inspire, comme des prophètes. Ce sont des prophètes, à certains égards.
William Marx, écrivain.
Et évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons aujourd'hui une muse. Les muses sont de véritables divinités, une divinité qui est là pour donner une parole d'origine divine. Et cette parole-là, on ne pourra jamais l'appeler littérature. La parole littéraire ne peut pas être une parole divine, c'est une parole humaine. Là, elle vient de l'au-delà. Donc, appeler ces textes littérature, c'est un anachronisme. Après, par commodité de langage, on peut le faire, mais il faut savoir ce qu'on fait.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe évoque les muses. Les muses qui sont sérieuses et joueuses.
Dans un passage de l'Iliade, Homère annonce qu'il veut faire la liste de tous les chefs grecs qui se sont embarqués pour aller assiéger Troie. C'est une tâche énorme, tellement ses chefs et leurs bateaux étaient nombreux, tout seuls. Homère n'a pas les moyens d'y arriver. Il appelle alors les muses à son secours.
Maintenant, dites-moi, muses, qui tenez maison dans l'Olympe, quels étaient les commandants et les chefs des Grecs ?
Lui, simple mortel, en serait incapable. Il est prisonnier de la rumeur, de ce que disent les humains. En fait, il est ignorant. Elles, les éternellement présentes, qui ont tout vu, tout entendu, elles sont savantes.
Car vous êtes déesse, vous êtes présente et savez toutes choses. Et nous, n'entendons que du bruit, et nous ne savons rien.
On ne peut pas se contenter de ce que depuis des générations disent les humains, même les plus doués et les plus savants. Il faut savoir se mettre en relation directe avec une divinité. Sinon, on ne sera jamais sûr de ce qu'on dit, et le public n'aura aucune raison de vous croire. Et dire qu'on ne peut pas répéter la tradition, dire qu'on a besoin de l'intervention immédiate, personnelle des muses, c'est dire aussi que les poèmes des prédécesseurs et des rivaux ne valent pas grand-chose. En tout cas, moins que celui qu'on va composer grâce aux muses devant le public. Sans les muses, pas de chant, pas de poème, pas de connaissance de ce qu'ont accompli les dieux et les héros, et donc pas de rassemblement des Grecs venus écouter avec enthousiasme une voix autorisée, légitime, qui leur transmet les histoires essentielles de leur religion et de leur culture, et qui les charme. D'où vient ce pouvoir extraordinaire des muses, ces machines à remonter le temps ? Pourquoi les Grecs accordaient-ils tant d'importance à ces divinités et donc aux poètes qu'elles inspiraient ? Les historiens ont remarqué que ces muses n'existent nulle part ailleurs, seulement en Grèce. Il n'y a pas l'équivalent des muses dans les civilisations antiques de l'Inde, de la Mésopotamie, de l'Égypte, de l'Empire hittite. Pas de divinité de la poésie. Les poèmes, ils sont placés scrupuleusement sous une autorité divine. Mais il n'y a pas de divinité spécialisée en poésie, pas de divinité chargée de rendre possible le travail des poètes. Qu'est-ce qui se passe en Grèce ? Par leur naissance déjà, Les neuf muses ont une immense qualité. Elles rassemblent les époques. La légende la plus répandue dit que les muses sont les filles de Zeus et de la déesse Mémoire, Mnemosyné. Or, le père et la mère n'étaient pas de la même génération. Zeus est le fils du dieu Cronos et de la déesse Rhea. Cronos, son père, était le roi des dieux, mais Zeus l'a détrôné après une guerre épouvantable de 10 ans. Zeus et ses frères et sœurs ont gagné cette guerre contre Cronos et ses frères et sœurs, ces dieux qu'on appelle les titans. C'était génération contre génération. Les jeunes, comme d'habitude, chassent les vieux. Or, Mémoire, Mnemosyné, fait partie de la génération des titans. Elle est la sœur de Cronos. C'est donc la tante de Zeus. La génération des titans et des titanes est définitivement vaincue. Zeus a conquis le pouvoir. Il est devenu le patron des dieux et du monde, à la place de son père. Mais Zeus est un roi avisé. Il ne veut rien perdre. Il veut intégrer dans son royaume ce que la génération d'avant avait de meilleur. Et il veut assurer la solidité de son pouvoir pour l'avenir. Pour cela, il épouse ses tantes. Pas toutes, mais deux. Parmi d'autres épouses, la liste n'est pas courte. Zeus s'intéressa aussi à ses sœurs. D'abord, il épouse la déesse Thémis, déesse de l'ordre, de la justice. Elle met au monde des divinités féminines qui, aujourd'hui encore, règlent la vie des humains sur Terre. Les déesses justice, paix, bonne répartition, et les divinités du destin. Puis il épouse une autre de ses tantes, Mémoire aux beaux cheveux. En épousant la déesse Mémoire, Zeus s'assure la maîtrise du temps. Rien dans le passé ne sera oublié, et à l'avenir, rien de ce qui aura eu lieu ne sera effacé. Zeus sera content. Tous ses exploits, toutes ses victoires, ses conquêtes seront sauvées de l'oubli, à jamais. Zeus s'unit à la déesse Mémoire dans une région toute proche du mont Olympe, la Pierie. Le poète Hésiode, dans son poème « La naissance des dieux », la Théogonie, dit qu'ils couchèrent ensemble pendant 9 nuits. Puis Mémoire accoucha de 9 filles, les muses.
Unie en Pierie à Zeus père, fils de Cronos, Mémoire, qui règne sur les collines d'Éleuthère, engendra les muses. Elles sont l'oubli des malheurs et la trêve des angoisses. Zeus, le rusé, s'unissait à elles pendant 9 nuits, loin des immortels, en montant sur un lit sacré.
C'est plus qu'étonnant. Hésione nous dit que la déesse Mémoire engendre des filles, dont la première qualité est l'oubli. Hésiode dit des muses, filles de Mémoire, qu'elles sont l'oubli des malheurs, des douleurs. En grec, les deux mots mémoire et oubli se ressemblent. Mnemosyné pour la mémoire, lesmosyné pour l'oubli. Hésiode joue sur cette ressemblance et s'amuse à faire un paradoxe. Il dit que les muses sont l'oubli des malheurs, alors que la mémoire, normalement, se souvient de tout, n'efface pas, en tout cas pas le mal. Elle en conserve le souvenir, sinon ce n'est pas de la mémoire. Mais avec les muses, les angoisses pour un temps s'arrêtent. Elles font une trêve. La suite du récit en dit plus.
Quand il y eut une année, quand les saisons tournèrent, quand les mois disparurent et que s'acheva le tour de nombreux jours, Mémoire enfanta 9 filles qui pensent à l'unisson. Elles prennent soin des poèmes dans leur poitrine. Leur cœur ne connaît jamais le deuil. Elle les enfanta à peine en dessous de la plus haute crête de l'Olympe neigeux. Là sont les pistes lustrées pour la danse et leurs belles chambres, tout à côté de la maison des grâces et du désir au milieu des fêtes. Leur bouche lance une voix qui fait naître l'amour. Elle chante, elle glorifie les règles et les beaux usages de tous les immortels en lançant une voix qui fait aimer.
Les muses ne se contentent pas d'être une mémoire infatigable et bien contrôlée de tout ce qui a eu lieu partout dans le monde, chez les dieux et chez les humains. Elles enchantent, elles effacent les peines, donnent du plaisir, elles suscitent la joie et le désir. Comme elles se souviennent de tout, des moments heureux comme des malheurs, leur savoir déjà permet de ne pas rester fixé sur le malheur, de ne pas être fasciné par lui. Déesses du temps long, les muses rappellent qu'il y a eu aussi des jours heureux et qu'il y en aura. Et il y a autre chose. Les muses, nous dit Hésiode, pensent à l'unisson. Elles sont 9. Mais elles pensent toutes la même chose. Et leur chant est harmonie, unité et extrême beauté de leurs 9 voix. Souvent, elles sont accompagnées par le dieu Apollon qui joue de la lyre. Elles dansent avec lui et font alterner leurs voix magnifiques. Quand elles chantent dans l'Olympe, toute la montagne des dieux est en liesse.
Les murs muses chantent des hymnes pour leur père Zeus. Elles réjouissent son puissant esprit dans l'Olympe. Elles disent ce qui est, ce qui sera, ce qui a été, réunis par leur voix. De leur bouche infatigable coulent des sons qui donnent le plaisir. Et les chambres de leur père, Zeus au grand fracas, rient quand, pareil au lys, la voix des déesses se répand. Les cimes de l'Olympe neigeux résonnent et les chambres des immortels. Elles lancent une voix qui ne meurt pas.
C'est la même chose quand un poète humain se fait porte-parole des muses dans un concert, dans une cérémonie. Il crée de la joie.
Si, en pleine douleur, avec un deuil neuf au cœur, on a la poitrine desséchée par l'affliction, alors le poète, en bon représentant des muses, chantera les gloires des hommes d'avant et les dieux bienheureux qui habitent l'Olympe. Aussitôt, on oublie les chagrins de la pensée et du deuil, on n'a plus mémoire. Vite, les dons des déesses en ont détourné.
Le savoir universel des muses s'exprime dans des fêtes, dans le plaisir. Ce n'est pas un savoir triste, austère, de savants retirés du monde. C'est un savoir public qui libère. Fille de Zeus, du dieu qui règne sur toute chose et qui travaille dur à maintenir l'harmonie du monde, les muses produisent par l'accord merveilleux de leur voix un symbole éclatant, immédiatement perceptible de cette harmonie. Même si les histoires racontées par les muses sont violentes, déchirantes, comme la mise à sac de Troie ou la mort d'Achille, comme le sont pour tout le monde les malheurs répétés de la vie courante, le chant parfait des muses rend vivante, captivante et évidente pour un temps l'idée que le monde, malgré tout, est ordonné, unifié. Pour un temps, celui de la musique, l'unité du monde est comme réalisée grâce à la beauté. Grâce aux muses, on entre dans une expérience parfaite. On sort du malheur, des déchirures de la vie, même si après le moment de musique, il faut à nouveau les affronter au jour le jour. Le langage, nous disent les poètes anciens quand ils parlent des muses, c'est faire ça, accomplir cette double tâche. À la fois dire avec précision, exactitude, ce qu'il y a de plus déchirant, de plus extrême dans le monde et son histoire, et par sa puissance propre, créer l'harmonie. La mémoire, comme le rappellent les études psychologiques modernes, ne se contente pas d'enregistrer les épisodes plus ou moins chaotiques et traumatisants de la vie. Elle les recompose, elle leur trouve un langage, elle leur donne un sens. C'est le travail des muses, et grâce à elles, du poète.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Pierre Judet de la Combe nous pose cette question. Comment parler de dieux et de héros que nous n'avons jamais vus ?
Très tôt, les neuf muses ont eu des noms. Ils disent tous le plaisir et la force du chant. On a Clio.
Cléio.
Elle est la déesse qui célèbre, qui donne et dit la gloire. Euterpe et Euterpe. Charme. Elle comble de plaisir. Thali.
Thaleia.
C'est la belle floraison, l'abondance, la joie, la fête. Melpomène.
Melpomène.
C'est le chant et la danse. Terpsichore.
Terpsichore.
C'est le cœur des muses qui sait charmer. Erato.
Erato.
Diffuse l'amour et le désir. Polymnie.
Polymnia.
Indique que les chants ou hymnes sont nombreux, multiples et infiniment variés. Uranie.
Uranie.
Et celle qui a le nom le plus étrange. Il signifie la céleste, celle qui est du domaine d'Uranos, le ciel. Elle indique que le chant des muses a la force de l'origine, puisque le dieu ciel, Uranos, est le premier dieu à régner sur le monde. Certains poètes font d'Uranos, et non de Zeus, le père des muses. Le nom indique aussi que les muses sont en accord avec la totalité des choses, avec le cosmos, qui est clos par la voûte étoilée du ciel. La dernière des muses, la chef, est Calliope.
Calliope.
C'est tout simplement la belle voix, à savoir ce qui donne toute leur puissance aux neuf muses. Ces noms sont une analyse de la force du chant. Ce n'est que très tard qu'on a voulu, dans une perspective scolaire, relier chaque muse à un art particulier. L'histoire à Clio, l'épopée à Calliope, la danse à Terpsichore, la poésie lyrique à Erato, la musique à Euterpe, la tragédie à Melpomène et la comédie à Thali, l'éloquence à Polymnie, l'astronomie à Uranie. Mais au départ, les muses ne pouvaient être séparées les unes des autres. Elles forment un tout. De temps en temps, les muses quittaient l'Olympe pour aller choisir un homme ou une femme et l'obliger à devenir poète. En général, il ne s'y attendait pas du tout. Ça lui tombait dessus et il n'y a pas à discuter. On ne naissait pas poète, on était contraint de le devenir. Les muses choisissaient plutôt quelqu'un de jeune, marginal, pas trop établi dans la société. Un jour, nous dit toujours le poète Hésiode, les muses dansaient au sommet de la montagne qui leur appartient, l'Hélicon. Elles tournent autour de l'autel de Zeus, leur père, après s'être baignées dans l'eau violette d'une source. Elles sont belles, mais aucun mortel ne les voit. Puis elles descendent de leur montagne en ayant pris soin de se rendre invisibles. Elles se sont voilées de brume. Elles tombent sur des bergers qui faisaient tranquillement brouter leurs moutons au pied de la montagne Hélicon. Les bergers sont des gens à part, qui vivent dans les zones sauvages, loin de la ville, loin de la société. Tout de suite, les muses les engueulent vertement.
« Bergers aux maisons sauvages, saletés malfaisantes, vous n'êtes que des ventres. »
Ce n'est pas très respectueux des braves et utiles travailleurs que sont les bergers de nos campagnes. Puis les muses leur balancent deux vers, obscurs, qui ont suscité d'immenses discussions chez les interprètes de l'Antiquité à nos jours. Les muses, cette fois, font dans l'opaque.
Nous savons dire des foules de mensonges qui ressemblent à des faits avérés. Quand nous le voulons, nous savons clamer des vérités.
Comprenne qui pourra. Les muses peuvent donc mentir. Et quand elles le veulent, elles peuvent dire des vérités, comme ça, sans prévenir. Ce sera à nous de nous débrouiller et de faire la différence. En fait, les muses connaissent tellement bien le vrai, à savoir tout ce qui a eu lieu et le sens profond des choses, qu'elles peuvent broder, s'amuser, elles sont libres. Le langage est leur domaine, dans toutes ses possibilités. Il n'y a que le langage pour accéder au vrai, à ce que sont vraiment les dieux, à ce que sont les héros du passé, puisqu'ils sont invisibles. Mais le langage peut faire ce qu'il veut. Il faut savoir l'écouter. Et pour ça, il faut savoir s'arracher à sa condition présente et prêter l'oreille. Les bergers, eux, sont des crétins. Ils ne pensent qu'à faire manger leurs moutons, à produire de la nourriture et à manger. Obsédés par la réalité la plus basique, ils n'ont aucune idée de ce que peut faire le langage. Ils ne sont pas libres, mais englués dans un petit réel. Il faut les décrétiniser. Les muses choisissent Hésiode parmi les bergers. Elles cueillent une branche de laurier, l'arbre d'Apollon, et la donnent à Hésiode. Comment font-elles alors qu'elles sont invisibles? À nous d'imaginer la scène. Et voilà, le jeune berger est sacré poète.
Ainsi parlèrent les filles du grand Zeus, qui savent assembler les mots. Elles cueillirent et me donnèrent le sceptre magnifique d'une branche de laurier en pleine pousse, et m'insufflèrent une voix accordée au divin, pour que je glorifie ce qui sera et ce qui a été. Elles m'ordonnaient de faire un hymne à la race des bienheureux, qui sont toujours, et elles de les chanter toujours en premier et en dernier.
Hésiode, de fait, chantera les muses et la race des dieux dans un poème qui deviendra ultra célèbre, la Théogonie. Parfois, la rencontre entre le futur poète et les muses est plus drôle. Ça dépend du genre de poésie qu'elles feront pratiquer. Au 7e siècle avant notre ère, un peu après l'époque d'Hésiode, vivait et chantait le poète Archiloque. C'était un comique, mais un dur. Il avait la dent féroce. Il n'arrêtait pas de se moquer de ses semblables, notamment de sa fiancée qu'il trouvait trop moche, après l'avoir beaucoup désirée, et aussi du beau-père qui finalement lui refusa sa fille. Il se vantait d'avoir abandonné son bouclier devant l'ennemi, alors que c'était considéré comme une grande lâcheté. Il savait faire rire, méchamment. Ce sont les muses qui lui ont permis de vivre de ce talent. Elles adoraient les combats d'injures, si les injures étaient belles et drôles. Un jour, alors qu'Archiloque était un enfant, son père l'envoya au champ chercher une vache que le père voulait vendre en ville. Avec sa vache, le jeune Archiloque est en route. Il tombe sur des filles. Tout de suite, il commence à se moquer d'elle. Elle répond par des rires et des plaisanteries. Et elle lui demande si sa vache est à vendre. Il répond que oui. Les filles lui disent qu'ils lui donneront un bon prix. Elles prennent la vache et disparaissent. À la place de sa vache, Archiloque découvre une lyre. Il est stupéfait. Puis il comprend que ses filles étaient les muses. Elles l'ont consacré poète. Archiloque pourra pratiquer des injures de haut niveau artistique. Il aura d'abord des problèmes avec son père, qui ne voudra rien entendre et cherchera partout sa vache. Mais Archiloque deviendra célèbre. Les muses étaient savantes, rieuses, mais il ne fallait surtout pas les défier et mettre en doute leurs capacités. Un poète a osé le faire et il l'a payé très cher. Ce poète s'appelait Thamyris. Il était très connu pour sa virtuosité à la cithare. Son nom, Thamyris, indiquait que c'était un poète à succès. Thamyris en grec veut dire rassemblement, foule. Il était du même pays qu'Orphée. C'était un jeune homme, paraît-il, très beau. On dit parfois qu'il avait un œil blanc et un œil noir. Je ne sais pas si c'est un signe de beauté, mais en tout cas, ça veut dire qu'il était marqué par les dieux et qu'il savait rassembler les contraires. Il paraît qu'il a été le premier homme à tomber amoureux d'un autre homme. Mais il n'aurait pas dû choisir un jeune homme qu'aimait aussi Apollon. Ça a mal tourné. Tamiris était de bonne famille. Son père avait fait le voyage des Argonautes avec Jason et Orphée. Un jour, il défia les 9 muses. D'abord, il leur proposa de coucher avec elles, toutes les 9. Elles rirent et lui dirent qu'il devait d'abord les battre dans un concours de musique. Il accepta et évidemment il perdit. Il paya son affront au prix fort, nous dit Homère.
Dans leur lutte avec Tamiris de Thrace, les muses mirent fin à son chant. Il déclarait solennellement qu'il serait vainqueur si les muses en personne chantaient, les filles de Zeus qui portent l'égide. De colère, elles le mutilèrent et en plus, elles lui enlevèrent son chant sublime et lui firent oublier la cithare.
Dans plusieurs versions, la mutilation de ce Tamiris est précise. Les muses le rendirent aveugle, mais pas comme Homère, qui savait chanter l'invisible parce qu'il avait perdu la vue. Tamiris perdit aussi l'art de la cithare. Les muses l'ont complètement annulé. On peut donc savoir chanter et avoir du succès si on a du métier, si on connaît l'amour. Mais on ne peut vraiment exercer son art que si on reconnaît son origine divine, si on se soumet à l'autorité des muses. Elles sont les patronnes. Le poète n'est que leur porte-parole. Les muses sont intraitables. Elles défendent leur monopole, mais elles savent s'émouvoir. Nous avons dit qu'elles étaient du côté du plaisir, de la fête. Mais quand le deuil est immense, quand il touche tous les Grecs et aussi les dieux, les muses peuvent être présentes et participer à la douleur. Elles le font en y ajoutant la beauté inouïe de leur voix. Par là même, dans la souffrance, elles créent l'harmonie. C'est ce qui s'est passé pendant les longs jours de tristesse qui ont suivi la mort d'Achille à Troie. Achille était le plus grand des héros, le plus aimé des dieux. Sa mort est un désastre. Elle signale la fin d'un monde. Achille, désormais absent pour toujours, ne sera grand que par sa gloire, non par ses actes. Ses funérailles furent grandioses, mais elles commencèrent par une grande frayeur. Les Grecs pleuraient. Comme c'est la coutume, ils se coupaient les cheveux. Mais tout d'un coup, un cri gigantesque sortit des eaux de la mer. Thétis, la mère d'Achille, la déesse marine qui vit au fond des eaux, criait sa douleur. Tous les Grecs frissonnèrent, prirent peur. Puis ils comprirent que le cri venait de Thétis, qui avec ses 50 sœurs sortait de l'eau pour voir son fils mort. Thétis et ses sœurs sortent des eaux, se montrent et gémissent à en faire pitié. L'harmonie, l'apaisement, les pleurs ordonnés et partagés, comme le demande le rite funèbre, ne viennent qu'avec l'intervention des 9 muses. Elles sont là, autour du cadavre de leur grand héros, et elles conduisent la cérémonie. Les Grecs sont bouleversés, puis se mettent à danser. Pour une fois, en l'honneur d'Achille, dieux et humains sont réunis dans la tristesse. C'est un moment unique, un témoin raconte.
Les 9 muses, toutes, faisaient alterner leurs belles voix pour chanter ton chant funèbre. Tu n'aurais pas vu un seul Grec les yeux vides de larmes, tellement la voix claire des muses nous emportait. 17 nuits, continuellement, et 17 jours, nous pleurions, dieux immortels et hommes mortels. Le 18e, nous t'avons donné au feu, et dessus nous avons mis à mort une foule de gras moutons et de bœufs aux cornes courbes. Tu as été brûlé dans un vêtement de dieu, avec abondance d'huile et de tendre miel. Une foule de héros achéens se lançait dans la danse avec leurs armes autour de ton bûcher, hommes à pied et hommes de chevaux. Un grand fracas se leva.
Les muses n'étaient jamais apparues sur le champ de bataille. Normalement, elles sont invisibles, couvertes de brume, et elles enregistrent les événements pour que les poètes ensuite puissent les chanter. Mais là, lors de la plus grande tristesse que pouvaient connaître les Grecs, le jour où le héros qu'elles chanteront le plus disparaît, elles se montrent, elles participent à l'événement. Tristes, elles préparent par leur chant magnifique et bien équilibré l'immortalité poétique d'Achille. Comme les Grecs, en construisant un immense tombeau, lui assurent une immortalité matérielle, bien visible.
Puis la sainte armée des hommes de lance grecque versa sur les cendres la terre d'une tombe immense et sans défaut, au bout d'un cap, dans les larges eaux de l'Hellespont, pour qu'elle soit vue de loin depuis la mer par les hommes qui sont nés aujourd'hui et par ceux qui viendront plus tard.
Les muses respectent la mort de leur héros favori. Elles la pleurent et la transforment en gloire éternelle.
Pierre-Judée de la Combe parle des muses et des sirènes. Vladimir Jankélévitch, philosophe.
Les sirènes ne sont pas toujours représentées comme des êtres mortels, ce sont souvent des muses. Les muses, elles ressemblent, on les représente comme des femmes oiseaux, la femme oiseau qui est la muse de la mère homicide, qui incarne la grâce et l'harmonie, en même temps que son enchantement est un enchantement mortel, une invitation au naufrage.
Quelle différence avec les sirènes, ces anti-muses. Avec ces chanteuses qui sont tout le contraire des muses. Les sirènes sèment la mort et l'oubli. Ce sont les doubles des muses, en négatif. Je voudrais, pour finir, évoquer ces figures sombres, maléfiques et envoûtantes, les sirènes. Ces grandes artistes qui, en stricte opposition avec les muses, révèlent les pièges du langage et du chant. Elles font du langage le plus beau, le plus savant, une arme de mort. On dit parfois qu'elles sont les filles d'un fleuve et de l'une des muses, Euterpe, la toute charmante. Mais le charme des sirènes est fatal. Il tue. Les sirènes, souvent représentées comme des femmes ou oiseaux, et non pas chez les Grecs de queue de poisson, habitent une île, quelque part dans la Méditerranée. On ne saura jamais où. Ulysse, lors de son retour, doit passer par là. Circé, la magicienne qui sait tant de choses, indique à Ulysse quelle route il doit prendre pour rentrer chez lui. Elle le met fortement en garde contre les sirènes. Il ne doit surtout pas céder au charme merveilleux de ces chanteuses. Ce serait la mort assurée pour lui et ses compagnons.
D'abord, tu arriveras près des sirènes. Elles charment tous les humains qui les approchent. Si par ignorance on va près d'elles, si on écoute la voix des sirènes, aucune épouse, aucun gentil enfant ne sera là pour le retour, pour faire la fête. Les sirènes ensorcellent avec leur chant clair. Elles sont assises dans une prairie. Autour, il y a une grande dune. Ce sont les eaux d'hommes pourrissants. Autour, les peaux se racornissent.
Circé dit à Ulysse comment faire. Boucher les oreilles de ses compagnons avec de la cire. Et s'il veut lui vraiment entendre les sirènes, qu'il se fasse attacher à son mât par des liens solides qui l'empêcheront de rejoindre les sirènes et de mourir. Comme ça, lui dit-elle.
Tu pourras entendre la voix des sirènes et tu seras charmé.
Elle ne dit pas à Ulysse de se boucher les oreilles. Lui, le chef, il a droit, s'il le veut, à cette si belle musique. Mais à condition que ses compagnons soient privés de ce plaisir, qu'ils rendent cette musique inoffensive en le ligotant et à condition qu'ils travaillent en ramant ferme pour éloigner le bateau. C'est bien ce qui arrive. Quand le bateau est en vue de l'île des sirènes, le vent tombe. On dit parfois que les sirènes peuvent charmer aussi les vents et les arrêter. La mer est silencieuse. Il faut ramer. Ulysse découpe une plaque de cire, embouche les oreilles des rameurs et se fait attacher au mât. Il commence à entendre et à subir la musique enchanteresse des sirènes. Il hurle, réclame qu'on le libère, tant il voudrait débarquer et les rejoindre. Ses compagnons resserrent au contraire les liens et rament pour quitter cette zone de cauchemar. La tentation pour Ulysse est grande. Les sirènes dans leur chant l'interpellent directement, lui, l'homme très glorieux, car il a été le vainqueur de Troie. Comme les muses, les sirènes disent tout sa voix.
Viens ici, ô Ulysse, mille fois célébré, grande splendeur des Achéens. Arrête ton bateau pour écouter notre voix. Personne jamais n'a croisé par ici avec son bateau noir sans écouter la voix au son de miel qui sort de nos bouches. Charmé, on repart, on sait plus de choses, car nous savons tout. Tout ce que dans la vaste Troie, Grecs et Troyens ont souffert par la volonté des dieux. Nous savons tout ce qui advient sur la terre, grande nourricière.
Alors que les muses produisent le plaisir, la liesse collective, la fête, le charme des sirènes est comme une drogue. Il crée la frustration, et les douleurs manquent, envie frénétique d'aller les rejoindre. Et donc de mourir. Ulysse se débat, veut quitter les liens serrés et douloureux qui lui assurent la survie, qui lui permettent de rester lui-même, un Ulysse contraint, mais vivant et solide. Qu'est-ce qui le fascine, l'appelle ? Non pas une belle mélodie simplement, mais un beau chant qui parle de lui, de sa gloire, de son histoire personnelle, et qui la fera briller dans l'histoire totale du monde que les sirènes connaissent de part en part. Ulysse est prêt à se défaire, à s'anéantir et à pourrir, dans l'idée qu'il pourrait ne faire qu'un avec un langage magnifique et total qui parle de lui. on dirait aujourd'hui, dans l'idée de ne faire qu'un avec son image, de n'être plus qu'un selfie décharné, à la fois charmant et desséché, qu'on reproduit et diffuse des milliers de fois dans un narcissisme sans limite. Les sirènes, c'était un selfie, mais grandiose et élaboré quand même, qui embrasse la totalité du monde. Mais, et c'est là la limite extrême de ce langage, de ce chant des sirènes, il sera tourné vers le passé, vers la gloire déjà advenue d'Ulysse. Il sera donc tourné vers la mort. Il ne dira rien de ce que Ulysse doit encore faire jour après jour pour continuer à vivre dans son voyage si risqué. Ce chant immense et beau des sirènes arrête la vie. Il fige et on pourrit sur place. Si Ulysse avait cédé au chant des sirènes, il n'y aurait plus d'Ulysse et plus d'Odyssée, plus de chant. Ulysse, grâce à ses compagnons, a effectivement appris quelque chose en passant près des sirènes et en écoutant leur voix envoûtante. Il est devenu plus savant, mais pas au sens où l'entendaient les sirènes. Il a appris ce qu'est la tentation de céder à la force inouïe du langage, qui peut tout absorber, tout enclore et stériliser, si on croit qu'on est vraiment ce qui est dit de nous. Il a appris qu'il y aura toujours un abîme entre un Ulysse qui tente simplement de vivre, quitte à s'enchaîner à son mât dans des liens très étroits et pénibles, et un Ulysse grandiose mais ancien mort, l'Ulysse d'une louange que chantent des déesses omniscientes et cruelles. Il sait qu'il sera perpétuellement pris entre ces deux manières d'être, entre ces deux figures, toujours instables et en action.
Suzanne Saïd, helléniste.
Les sirènes, ce sont des êtres extrêmement ambigus. D'un côté, les sirènes, ce sont des super poètes. Comment est-ce qu'elles vont séduire Ulysse ? Et pourquoi faut-il qu'Ulysse se bouche les oreilles quand il arrive ? C'est que les sirènes, ce sont celles qui, avant le poète Démodocos chez les Phéaciens, vont chanter à Ulysse sa gloire. Et que donc, tous les hommes qui arrivent là ne rêvent plus que d'une chose, de rester là éternellement à écouter le chant des sirènes. Celui qui les immortalise en quelque sorte. Mais je pense qu'elles représentent une sorte de poésie idéale. Mais en même temps, c'est l'idée que si on se laisse captivé par ce chant de gloire, on n'existe plus.
Une fois Ulysse sauvé, une fois les sirènes dépassées, les muses peuvent reprendre leur travail. Elles ne vont pas répéter à l'infini les exploits d'Ulysse, le héros glorieux du passé. En racontant ses aventures improbables sur la mer, puis chez lui, les muses vont dérouler pour nos oreilles bien ouvertes, sans cire qui les bouche, l'exploit inouï qu'est la tentative de s'en tirer. Et de vivre. Les muses, avec leur mémoire, sont vraiment libératrices.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen. La programmation musicale est de Thierry Dupin.
La saga du plus grand des héros, Achille, commencera la semaine prochaine, avec d'abord cette question. Pourquoi est-il né ?
Bonne journée sur France Inter.